France Inter, la différence.
Et c'est l'heure maintenant de la Bastille, j'y suis avec Daniel Mermet.
Monsieur, un petit commentaire sur la naissance de la petite Rolex Karachi Bruni Sarkozy.
Non, je m'en fous.
Salut Daniel, c'est Lucas, habitant de Mayotte. Ça y est, on a notre Malik Oussekine. Il s'appelle Ali El Anziz. Je dis ça pour Patrick Cohen ce matin, là, qui évoquait un habitant de Mayotte. Et il a été donc tué hier midi par un tir de flashball qui a été reçu en pleine poitrine lors d'une manif citoyenne qui, au dire de beaucoup, se déroulait dans le calme à Mamoudzou. Après qu'un enfant ait perdu l'œil gauche la semaine dernière, ça commence à faire beaucoup. Hier après-midi, juste après ce drame, avec une clairvoyance qui les honore, et c'est une galéjade bien sûr, les magasins ont ouvert leurs portes, business is business, faisant fi de toute empathie. Mais résultat, ils ont été saccagés, pillés, brûlés comme en petite terre. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à ce déchaînement de violence? Je dirais que c'est la conjugaison de plusieurs facteurs. Au départ, des manifs légitimes contre les prix plus qu'abusifs pratiqués par la grande distribution. Un jeune préfet originaire de Neuilly, qui d'entrée de jeu fait employer la force dès les premiers rassemblements, provoquant l'entrée des jeunes dans la lutte sociale, barrage, caillassage à travers toute l'île, 60% des habitants ont moins de 20 ans. Un espoir la semaine dernière, patron de grande surface et syndicalistes sont sur le point d'aboutir à un accord, et le préfet suspend la réunion pour annoncer l'arrivée providentielle de la ministre des Dom-Tom, Marie-Lise Blanchard, qui n'a d'autre légitimité à ce poste que d'être la fille de Lucette Michaud-Chevry. Sympa. Donc qu'est-ce qu'a fait cette petite dame? Arrivée matinale, sans fanfare, consultation à la va-vite, laïus insipide ou verbigération décalée, comme vous voulez, à 19h sur RFO, et redémarrage du conflit, des barrages, etc. Merci donc à ces représentants de l'État dont l'impéritie le dispute à la vacuité de leur action publique. Vivre, c'est lutter, disait Victor Hugo, mais hier, pour Ali El Anziz, 39 ans, lutter, c'est être tué. Puis je voulais ajouter quelque chose que j'ai entendu ce matin sur RFO. Il y avait une infirmière qui témoignait qu'elle avait voulu lui porter les premiers secours. Et vous savez ce qu'on lui a répondu? Circuler. Vive la République, vive la France et vive le 101e département.
Si vous avez manqué un œil sur la planète, un État palestinien est-il encore possible avec, entre autres, le lobby pro-israélien aux États-Unis, contesté par le CRIF? Ça doit normalement repasser ce soir sur TV5 à 21h. Bonne journée à tous, au revoir.
Bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs. C'est un message urgent d'Eliane à Bayonne, au Pays Basque, concernant l'organisation du contre-G20 de Nice. Alors les 3 et 4 novembre, vous le savez, le G20 se réunit à Cannes. Et face au G20, nous serons nombreux à Nice pour faire entendre notre voix. Le peuple d'abord, pas la finance. En Pyrénées-Atlantiques et Sud-Land, à l'initiative d'Attaque Pays Basque et de l'association Bici, nous organisons un départ de bus militant pour se rendre à Nice le mardi 1er novembre. Pour préparer le déplacement et le financer, nous vous proposons de venir tous au bar Patchoki du Petit Bayonne le vendredi 21 octobre, c'est ce vendredi prochain, à partir de 19h30. Merci.
Voilà, merci pour tous ces messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37. Merci. On est à Tunis aujourd'hui et on va passer cette heure ensemble à quelques jours, quelques heures, peut-on dire, de la première élection libre en Tunisie depuis toujours. C'est donc un très très grand moment d'histoire, un très grand moment d'émotion, de doute, d'inquiétude pour les Tunisiens qui ont retrouvé leur liberté et qui en ont fini avec la peur qui régnait sur eux et sur ce pays depuis si longtemps. Donc c'est un moment formidable qu'on va passer ensemble jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille, ici au 01 56 40 37 37.
Appel du collectif du 21 octobre contre la répression policière. Il y a un an, place Bellecour à Lyon, en pleine mobilisation sur les retraites, des centaines de manifestants ont été empêchés de manifester, séquestrés, humiliés, contrôlés au faciès pendant des heures par des forces de police en nombre disproportionné. Depuis, un collectif s'est créé, regroupant 40 organisations politiques, associatives, syndicales et des individus pour réagir face à ces méthodes policières et en solidarité avec les victimes. Le collectif du 21 octobre a déposé plainte auprès du procureur de la République, puis s'est porté partie civile. Il appelle à un rassemblement place Bellecour vendredi 21 octobre 2011 de 18h à 21h pour dire haut et fort que la lutte continue. Un débat à la Bourse du Travail samedi 22 octobre est organisé donc de 14h à 18h. Ce débat sera animé par des juristes universitaires européens qui témoigneront et proposeront leurs analyses sur les dérives sécuritaires en France et en Europe. Donc la Bourse du Travail, place Guichard à Lyon, salle Moissonnier, troisième étage.
Comment c'est quand même magique là, dans un quartier comme celui-là. Le Parti communiste, à quelques mètres, dizaines de mètres du Parti libéral, en train de distribuer leur programme électoral, c'est quand même surréaliste.
Dans le calme, dans le calme, sans agressivité particulière.
بركان وفكر في انتقادي هذا آخر انفجار
هيا surtout qu'on n'a jamais vécu ça. Personnellement, je ne connais pas les urnes. Je n'ai jamais été pour voter. Pour n'importe qui, pour n'importe quoi.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 63 ans.
Il y a les militants qui distribuent des tracts dans les voitures, alors on baisse la vitre, on prend le tract. C'est très sympa, c'est très bon enfant. Hein hein
oui,
les gens sont tous contents,
voilà, c'est nouveau.
C'est nouveau, c'est nouveau, et tout le monde peut en avoir.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces expressions post-révolutionnaires, le pays des 10 millions de politiciens.
Ouais.
C'est nous, tout le monde parle politique tout le temps, partout.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Guy Ventil depuis Tunis, depuis la Tunisie, qui vote dimanche.
Flight number 2, arriving.
Et Selma, on est où là ?
Har Lazrek, un quartier dans la ville de la Marsa, un peu en dehors du centre-ville.
Un quartier populaire ?
Oui, un quartier populaire. Oui.
Alors là, c'est le PCOT, oui. Parti communiste
ouvrier
tunisien, qui est en train de faire sa campagne au coin de cette rue. Ils ont choisi un drôle d'endroit parce qu'il n'y a pas d'endroit pour s'arrêter, mais c'est leur stratégie. Il y a une banderole, on voit la tête des candidats. Ce qui est étonnant, c'est qu'à 100 mètres, là, il y a un autre parti qui est en train de... qui a mis une petite tente avec des militants qui sont en train de distribuer des tracts, avec, sans doute qui font de la musique aussi. C'est comme ça à travers tout le pays.
Oui, oui.
Comment tu perçois ça, toi ? Qu'est-ce que tu sens ? Une effervescence, une exubérance ou une indifférence ?
Je crois que je partage quand même un peu la confusion des compatriotes. Même
la confusion ?
Oui, je me dis le point positif de tout ça, c'est de susciter l'intérêt. Mais j'espère du coup que ça le suscite vraiment parce que s'il y a trop de confusion, bon bah on lâche l'affaire. Bon, en même temps, c'est assez extraordinaire se rappeler le désert.
Le désert, la peur, le silence, l'hypocrisie, le double langage permanent, l'oppression, la pression. Ça c'est un parti important. Est-ce que tu peux nous présenter le parti en quelques mots ?
Là, c'est pour le coup, c'est un parti historique qui a été clandestin pendant longtemps. C'est un parti de militants connus et reconnus.
Respectés ?
Assez respectés, oui, pour leur militantisme et aussi par, disons, compassion parce qu'ils ont subi beaucoup de tracasseries. C'est un parti aussi qui était très présent dans le mouvement étudiant, donc.
Et dans le milieu ouvrier, dans le milieu populaire aussi ?
Aussi, aussi dans le milieu ouvrier, via aussi le syndicat, quand le parti était interdit, comme plusieurs autres partis d'ailleurs qui étaient interdits, les militants se rabattaient sur l'UGTT, le syndicat des travailleurs, pour militer au moins là-bas, légalement. Et voilà. Là, la tête de liste, Radia Nasraoui, c'est quand même un emblème, pas seulement du parti, hein, en fait, plus de défense des droits de l'homme. C'est une avocate qui a défendu plein de prisonniers, qui a parlé de la torture, etc., qui s'est fait elle-même tabasser plusieurs fois.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça, c'est le PCOT?
C'est le POCT, la partie communiste des ouvriers tunisiens.
D'accord.
Les principes sont beaux, sauf la reconnaissance pour Dieu. Karl Marx, c'est un athée.
Ouais.
Ouais. Il ne connaît pas Dieu, donc c'est la défaillance du POCT.
C'est-à-dire que si Marx avait été croyant, c'était bon.
C'est bon. Ah, ouais, c'est parfait.
Hein? Marx n'était pas croyant.
Oui, il n'était pas croyant, il était athée.
Non, il avait dit la religion, c'est l'opium du peuple.
Non, la religion, ça fait avancer les peuples.
Oui, mais Marx, il a dit que c'était l'opium du peuple, que c'était mauvais pour le peuple.
Eh, c'est pas une bonne idéologie, donc.
Mais à part ça...
À part ça, c'est bon. C'est bon. Parfait. Oui, il faut être révolutionnaire, combattre pour la liberté. Et pour l'indépendance d'autres pays, des pays industrialisés.
Non. Lui, il n'est pas d'accord. On attend la candidate, là.
Madame Radia.
Ça va?
Bonjour.
Ça va? Qu'on se voit.
Ah, c'est
ici,
génial qu'on se retrouve.
Sans flic.
Hein? Sans flic, voilà.
Sans flic.
C'est génial, dis donc.
Et que je distribue sans qu'on m'agresse.
Ouais, que tu distribues sans... tes tracts sans qu'on t'agresse.
Ah oui. Ça, c'est extraordinaire. Il y a quelque temps, on ne pouvait pas du tout imaginer.
Alors, tu n'arrêtes plus maintenant. Tu es dans les quartiers tout le temps.
Oui, tout le temps en train de discuter avec les gens pour comprendre leurs problèmes, pour expliquer un peu aussi pourquoi je me présente, qu'est-ce que je compte faire. Voilà.
Voilà, J-3, J-4, le premier scrutin libre de l'histoire de la Tunisie, 9 mois après le premier scrutin libre de l'histoire de la Tunisie, 9 mois après la révolution, après la fuite du méchant Ben Ali, les Tunisiens vont voter dimanche, vous le savez, pour élire une assemblée constituante qui va rédiger une nouvelle constitution. C'est beau, mais c'est pas simple. 11 686 candidats, 1621 listes pour 217 sièges, 111 partis politiques, 26 730 isoloirs, 9 600 urnes, 82 145 cachets en plastique avec la mention « à voter ». Des milliers d'observateurs et aussi des milliers de militaires, un déploiement policier imposant et important parce que on redoute des violences. On pense que le parti déchu va vouloir installer un climat de tension et de peur pour saboter la démocratie naissante en utilisant et en manipulant ceux qu'on appelle les salafistes. On redoute aussi beaucoup l'abstention. Difficile de s'y retrouver dans ces 1621 listes qui ont chacune 3 minutes à la télévision pour s'exprimer et ça dure des heures et c'est pas facile de faire la différence même si en fait au final il y a 5 ou 6 listes qui vont se partager l'essentiel des suffrages à commencer évidemment par Ennahda, le parti islamique. Pour nous c'est une émotion de se retrouver là, de se retrouver à Tunis 11 ans après, parce que c'était pas du tout la même ville, c'était pas du tout le même pays. Il y a 11 ans, c'était la dictature, c'était la police, c'était la peur, et on est évidemment tout content de retrouver nos amis qui au moins ont ceci de nouveau devant eux, c'est que la peur a disparu. Partout ça discute, c'est une effervescence, c'est un plaisir formidable de parler, c'est une ébullition de la parole, même si, je le répète, on redoute beaucoup l'abstention. Alors aujourd'hui, on va retrouver justement des vieux amis, Kamel Jandoubi qui a passé des années d'exil en France et qui est revenu au pays juste après le départ de Ben Ali et qui est maintenant à la tête de l'ISIE, I-S-I-E, l'Institut supérieur indépendant des élections. Et puis on retrouvera un autre vieil ami,
militant, Omeya Sédic, qui lui nous donnera une analyse un peu plus, on va dire, vigilante, un peu moins enthousiaste et un peu moins euphorique que tout le monde. Et puis, avec notre amie Radia Nasraoui, la militante et l'avocate Radia Nasraoui, on ira dans les quartiers populaires autour de Tunis pour voir comment se passe la campagne électorale, la distribution des tracts, les discussions avec les gens dans les bistrots, dans les rues, les uns après les autres, comment tout ça se vit actuellement en Tunisie, qui vote dimanche.
Au soleil, la vie est belle, y a pas de pluie, plus de Ben Ali. On peut chanter tout ce qu'on voudra sur l'avenue Bourguiba. Je t'ai vu, tu m'as vu, différents vues et j'ai couru. Quelquefois si délicat sur l'avenue Bourguiba. L'avenue Bourguiba.
Au coin de cette rue, il y a les militants qui distribuent des tracts dans les voitures. Alors on baisse la vitre, on prend le tract. C'est très sympa, c'est très bon enfant. Hein.
Oui,
les gens sont
tous
contents. Voilà.
Ouais, c'est nouveau, quoi.
C'est nouveau. Et tout le monde peut en avoir. Et pourquoi vous avez choisi ce parti?
Parce qu'il est très proche des ouvriers, des travailleurs. Je l'aime parce qu'il milite pour la liberté individuelle.
Pour les femmes, c'est bien, c'est un parti qui est plutôt bien pour les femmes.
Le مساواه التامه كيف كيف الانسان معناها ما نشوفوش معناها بالنسبه لينا في الحزب هذا المراه والرجل ما تتحرر المراه كما يتحرر الانسان بيتم معنى الكلمه.
Oui, c'est l'égalité totale et dans ce parti on pense que la femme ne peut être libre que si l'être humain est libre.
Alors que dans les partis religieux, la femme n'a pas la même situation.
في بعض معناها مش في كل شيء. بالنسبة للميراث ما ثماش معناها الحرية ما فماش مساواة بين المرأة والرجل.
Dans les partis religieux, c'est pas dans tous les cas qu'il n'y a pas d'égalité. C'est par exemple sur la question de l'héritage, il n'est pas question pour eux que ça soit l'égalité.
ما يخص معناتها المرأة معناتها في الأحزاب الإسلامية كما ذكرت اللي هي معناتها طارحة زواج فهمتني أربعة معناتها على الفرد أن يأخذ أربعة رجال وهذا ما راهوش نحن فهمتني من الحقوق.
Les partis religieux prônent parfois la polygamie et ça nous considérons que ce n'est pas équitable pour la femme.
Mais Nada s'est prononcée contre la polygamie.
Nada c'est de تعددية توا مرحلية خاطر هما كي تجي ترجع للمرجعيات نتاعهم.
Le fait de dire que Nahda est contre la polygamie, en fait, c'est une question de politique des étapes, parce que quand on regarde leur référence initiale, Nahda est pour. Et par rapport à la question du travail de la femme, pour Nahda, le travail de la femme n'est pas une question essentielle.
Par rapport à la problématique de Ben Ali et de l'après Ben Ali, vous ajoutez aussi les questions de la dette, que les Tunisiens continuent à devoir régler la dette contractée par le régime Ben Ali.
Oui, nous prenons l'annulation de la dette et aussi de la nouvelle dette post-révolutionnaire faite par Béjira et de Sepsi après
avec
la révolution.
Le nouveau régime de transitoire en place.
Transitoire, ouais.
Mais ça, c'est pour vous aider, ça. C'est pas pour vous endetter, on est là pour vous aider.
Et en plus, il a remboursé les dettes prises par Ben Ali.
Pendant qu'on est en train de parler là avec ce garçon-là qui est très compétent et tous les Tunisiens sont en train de se prendre le chou, discuter, d'apprendre. et de faire de la politique, évidemment, à trois jours, deux jours des élections. Mais là, en face, alors elle ne peut pas nous parler parce que c'est la règle. Elle est candidate. Radia Nasraoui, notre amie, le vieil ami Radia Nasraoui, est candidate. Et la règle veut que les candidats ne parlent pas à la presse étrangère. Donc, elle ne nous parlera pas.
Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une règle héritée du régime de Ben Ali pour empêcher dans le peu, l'extrême petit chouïa d'ouverture qu'il pouvait y avoir dans les élections où le score était généralement de 99 ou 98 ou parfois 96 ou les mauvais jours 92% pour pas que les quelques voix discordantes puissent être entendues à l'étranger.
Mais cette loi a perduré, elle n'a pas été annulée. Et donc, elle est appliquée là pour ces élections. Et donc, Radia ne peut pas nous parler des élections elle-même. Mais nous, on la voit. On la voit en campagne, sur ce carrefour très bruyant, avec ses embouteillages. Là, la nuit est en train de tomber sur ce quartier populaire de Tunis. Et là, en face, c'est le café Milano. Et Radia est à la terrasse, entourée par des... par toute une série de bons hommes avec qui elle est en train de parler. Et tout le monde est en train de brailler, de s'engueuler, de se prendre à partie. C'est vraiment une effervescence très sympa, quoi. Elle est assise au milieu de tout ça et elle balance ses idées et sa vision des choses et son projet. Et elle distribue ses tracts et tout avec la musique.
Et si beaucoup des voitures klaxonnent, c'est parce que les autres voitures s'arrêtent au milieu du carrefour pour prendre des tracts. Donnez-moi, moi aussi j'en veux.
Et là-bas, à 100 mètres, il y a un autre parti politique qui est en train de faire la même chose, de boucher l'autre carrefour.
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression post-révolutionnaire, le pays des 10 millions de politiciens.
Ouais.
C'est nous, tout le monde parle politique tout le temps, partout.
Oui, mais ça fait monter le niveau, ça fait monter le niveau de conscience politique, de débat, etc. Mais là, en face, c'est vraiment drôle, quoi. Ouais, t'as Radia Nasraoui au milieu de tout le monde et c'est là. Tout le monde est en train de se prendre le chou. Dis-nous ce qui se dit, quoi.
Les musulmans sont la majorité du peuple tunisien. Il y a un peu de juifs, un peu de chrétiens. Il dit, excusez-moi, la Tunisie est un pays islamique. Elle dit, non, ce n'est pas un pays islamique. C'est un pays dont la religion est l'islam.
Ah oui, c'est le gars qui est venu pour discuter. Lui, il n'est pas d'accord parce que lui, il est sur la ligne du premier article de la Constitution qui dit « La Tunisie est un pays musulman
voilà. ».
Et lui, il traduit ça, est un pays islamique.
C'est sa volonté, ouais. Nous, on ne veut pas que la religion se mêle de politique. Si vous votez ou vous votez pas, c'est votre choix. L'important, c'est que vous compreniez. Tu fais la prière. Où je bois, où je chante, je suis libre. L'important, c'est de ne pas déranger l'autre. Et ne me dis pas non plus, une telle porte le voile, on va lui enlever.
C'est une image absolument formidable, hein, Radia. Tout le monde est tendu à écouter les... C'est un débat télévisé absolument génial. Sauf que c'est au coin de la rue.
Et sur une question essentielle,
oui.
C'est l'islamisation oui. De la société tunisienne.
Et c'est quoi votre position sur les gens qui veulent inviter d'autres gens à la religion? Tu peux essayer de les convaincre. Comme moi, là, j'essaye de vous convaincre. Mais sans agression, quoi, sans abuser de la position. Tu ne me poses pas la question si je fais la prière ou pas. Elle lui dit, c'est quoi ton appartenance? Il dit, moi, avant, j'étais juste un amoureux de la Tunisie. J'ai travaillé dans un parti, mais par amour de la Tunisie. Sans les nommer. Nahda disent aux gens qui vont être jugés devant Dieu par rapport à leur vote maintenant.
ضحايا الافتئادي ضحايا جوع الافتراء
بركان وفكر في اعتقادي هذا آخر انفجار هيا نمحق الظلام نحطم القيود شيلون كرنا جديدا حرا كونوا أنتم الوجود
Pendant que les autres chantent international, on est en train de distribuer des tracts. Elle est en train de distribuer des tracts au menuisier. Regarde l'atelier du menuisier. Voilà, là, c'est le menuisier qui découvre le programme de Radia.
Donc, c'est pas moi le menuisier. Moi,
c'est pas vous le menuisier ?
Je suis le client, mais c'est quand même très intéressant. C'est toujours intéressant de voir ce que font les gens, quoi.
Oui, oui.
Puis c'est un pas énorme qu'on fait en Tunisie.
Mais c'est ça.
C'est ça. Et c'est surtout qu'on n'a jamais vécu ça. Personnellement, je ne connais pas les urnes. Je n'ai jamais été pour voter. Pour n'importe qui, pour n'importe quoi.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 63 ans.
Voilà.
Jamais de la vie, je n'ai pénétré, je l'ai voté. C'est ça qui est terrible.
C'est ça le plus important déjà pour dimanche.
Surtout ça. J'étais privé de ça. Moi, quand je vois ça à la télé, je me dis, les gens, ils ont de la chance en Europe. Si on voit surtout en Europe. Puis chez nous, rien ne se passe. Il faut accepter tout ce qu'on vous offre. Même s'il y a un vote, c'est à 99% et tout ça. Et ça, je l'ai vécu pendant 50 ans. C'est-à-dire depuis que Bourguiba, Ben Ali, c'est toujours la même histoire, quoi. Et là, aujourd'hui, on a le choix. On regarde même le fossile là, qui disparaît ailleurs, qui revient en Tunisie. C'est intéressant.
Ce n'est pas les fossiles, c'est la faucille.
La faucille, oui.
Je
regarde un peu trop peut-être les films là, de screen ou je ne sais pas quoi. Mais la faucille et le marteau, quand on voyait ça avant, on participait. C'est-à-dire, moi, j'étais pourchassé par la police dans le temps. Je suis un 68ard malgré tout. Et puis aujourd'hui, on voit ça, on distribue dans la rue, parce que ces gens-là, avant, étaient pourchassés par Bourguiba. Ce sigle-là était pratiquement interdit. D'ailleurs, il a créé les islamistes pour les combattre.
Pour combattre les communistes.
Voilà.
Ouais.
Et puis aujourd'hui, on voit qu'ils sont dans la rue, qu'ils chantent et qu'ils participent à la vie sociale, à la vie
politique. Et Ben Ali aussi les a pourchassés.
Oui, il a pourchassé les deux, lui.
Oui, c'est ça.
Mais aussi Bourguiba a créé les islamistes pour pourchasser les communistes. Et Ben Ali, il les a pourchassés tout le monde, Ben Ali. Même ceux qui ne font rien. Il est obligé de leur trouver quelque chose. Sinon, il ne pouvait pas vivre sans torture, sans rien faire, quoi.
Est-ce que vous avez fait votre choix pour dimanche ou...
Moi, je vais suivre ma femme.
Ouais. Bravo, les hommes qui suivent leur femme.
Je lui ai donné carte blanche pour regarder la télé autant qu'elle le voudrait et puis pour faire un choix pour la famille, parce qu'on va voter presque en famille.
Donc ici. C'est votre femme qui regarde la télé et qui dira à la famille, voilà, on vote pour celui-là.
C'est pas elle qui va décider, mais à force de elle voit ce qui se passe dans le pays et elle nous en parle. Et voilà.
Génial.
Bon vote alors.
Bon vote.
Merci. Bonne première élection.
Merci beaucoup.
Parce que moi, il dit qu'il va aller voir sa femme pour la convaincre.
Merci, monsieur. Au revoir.
Au revoir, au plaisir.
Merci.
اليوم اشوف لا تونيزي في لون 2011 اشوف دي بليزيور كيستيون قاعده سون ريبونس الوغ لازم تفسير الاحداث لازم اناليز لازم فيزيو بوليتيك تفسر لا كريز دونك نبدا لو بلون نحكي على ليكس بريزيدون نحكي على الموندا بريزيدونسيال قاعدة 23 عشنا ظلم عشنا لا ديكتاتور عشنا لا سونسور وناس تموت من لا تورتور شوف نفس عدم تاع الناس اللي دايرين بالكرسي المسؤولين الكبار الوزراء من فوق لا فامي ترابوسي يتحكموا في الاقتصاد كل شفنا لي ستاتيستيك دي سوسيتي دو ترونسبور دي بانك دي زوتيل توريستيك نو سو بوان اجا نحكيو على ليشيل انترناسيونال العالم الكل في بالو بهالبوفوار ديكتاتوريال مي لو بروبليم هو كي نشوفو لا في تاع لوكسيدون نشوفو لوروب و لاميريك و نشوفو لور بوزيسيون و اليوم الاخر لحظة مازالو يدعمو لو بلان يدعمو في لو ديكتاتور بوندون لا ريفوليسيون سمعنا اليوم اغي مينيست لي زافاغ اترانجير جاية تبروبوزي اينات بوليسيير مي لو بلان تقلب ما عادش كيما كان مسطر سي تخو تار
الثورة اليوم ما عادش تتأثر صايي الشعب تلاقوا فاد مقام على بوليس ما عادش مرشا غياغ الشعب ناقم على الرئيس ومن بعد الكل تلموا ونطبقوا الدوزيام بلان كونوا مجلس تأسيسي وبدوا الكونستيتيسيون على خاطر الدستور نفصل على الديكتاتور الRCD عاملة كونستيتيسيون سور ميزور اون بلوس لازم نبدلوا لا لوا إلكتورال خاطر قانون الانتخاب فريمون راه سكوندال ترون فوت باش توصل للانتخابات الرئاسية يصوتوا لك دي ديبوتي ورؤساء في البلدية وتتوحد مطالب لي ريفوليسيونير ونبدلوا النظام بريجيم بارلمونتير ويولي الشعب يقرر مصير لا ريبوبليك يحب ريجيم لايك ولا ريجيم اسلاميك ليسونسيال توا نكونوا خوات ونحافظوا على اللحمة نكونوا كنا يد وحدة باش نتعداو المحنة نحيو الاختلافات مطلوبنا نحيو الغل باش تونس تبقى حرة تونس للعباد الكل تونس للعباد الكل ام دي ام سي هي سيلين حمدي
On craint qu'il y ait beaucoup d'abstention,
oui.
Surtout, d'abstention, surtout dans les milieux populaires.
Oui. Il y aura de l'abstention dans les milieux populaires, les milieux pauvres, mais il y aura aussi des gens qui donnent leur foi, qui sont leur voix achetée, en donnant un mouton, en promettant un boulot, ou en donnant des ballons remplis d'argent pour les enfants. Nouveau parti, né avant le 14, après le 14 janvier, Union Libre, ils ont plein d'argent, on ne sait pas leurs sources. Le fondateur n'était jamais un militant, il a vécu en Amérique, il a fait ses études en Amérique, dans le domaine de pétrole et tout ça, il est venu rempli d'argent. Il y a des séquences vidéo diffusées sur Facebook, là où ils ont fait un meeting, ils ont donné des paquets de Marlboro pour les jeunes, oui. S'il y a le PDP, un parti politique, là où son fondateur était un homme militant, il a milité contre le système de Bourguiba et aussi de Ben Ali. Il était un parti pauvre, il était un parti opposant, parti pauvre, comme nous, exactement. Et là, on demande d'où viennent ses sources, cet argent.
Avant le 12 janvier, il n'y a pas
d'argent
pour le journal.
Pour diffuser, pour publier les journal opposant le Maouf.
Le lundi 17 octobre, il a un meeting au Travail Toudou, Carthage Talasso.
Un grand hôtel avec des dizaines de millions de dinars. Vraiment, c'est choquant. Il y a quatre partis opposants qui ont vraiment été contre le système de Bourguiba et aussi de Ben Ali. À part ça, les autres partis, on demande d'où viennent ces sources. On ne comprend rien, absolument rien. Voilà, on les trouve tout le temps à la télévision, pas comme les autres.
Vous qui connaissez bien Enarda, ça c'est un parti populaire.
Oui, un parti populaire.
C'est les pauvres votent pour Enarda.
Parce que nous sommes
virils. Tout à l'heure, quand je distribuais les tracts et tout, les femmes me disaient on est contre Enarda, mais nous hommes sont pour la Enarda. Et on a peur qu'il nous oblige à voter pour le Nava. Mais on est contre. On est contre la polygamie. On a peur du lendemain. On a peur, mais on ne sait pas ce qui nous attend, le Nava. Il y a un double discours clair pour tous les citoyens. À Qatar et aux pays orientaux, son discours est bien clair. On est contre la démocratie, on est pour la polygamie, etc. En Tunisie, il y a un autre discours. On est pour l'égalité entre femmes et hommes. Et voilà, on ne croit pas à ça. On le connaît très très bien. On connaît ces discours. Il y a aussi une séquence sur Facebook et sur Internet qui montre le double discours.
En tout cas, ce qu'on sent, c'est une attente, quoi. Les Tunisiens attendent beaucoup des élections. Oui. Là, le débat continue. Là, on est dans un bistrot et Radia est assise au milieu des hommes, que des hommes, pratiquement, à part ses copines militantes. Et les hommes sont tous en train de lui remonter le bouchon. Et elle répond, elle réplique, elle renvoie les balles. C'est quoi les sujets, Selma ? De quoi on parle ?
Donc, elle disait, je connais plusieurs femmes battues, même sauvagement, il faut régler leur situation. Un homme réplique, non mais ça c'est interdit de toute façon même par notre religion. Bon, on est passé à une autre question, celle de l'éducation. Elle dit on veut que d'une éducation qui nous sort des élèves, des cerveaux éclairés. Et pour cela, il faut apprendre aux élèves à débattre, à dialoguer, à critiquer. Ma fille a été punie parce qu'elle a critiqué dans la classe. La professeure nous a convoqués et nous a dit « Votre fille critique beaucoup ». Je lui ai dit « Heureusement, tant mieux ». Je suis contente de cette nouvelle. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre l'éducation privée et l'enseignement public. C'est pas possible que l'enseignement privé soit élevé et celui public soit bas.
Mais il y a une passion, c'est un moment de passion, d'exubérance, d'effervescence politique. Comme on en connaît très peu, quoi.
Imagine dans un croquet en France, passer en 5 minutes de la question de la condition des femmes après au problème de système éducatif.
Ça a existé, il y a des moments où ça a existé en France. Et là, c'est le moment, ça dure depuis 9 mois. Ça fait 9 mois que vous êtes comme ça.
Que c'est comme ça, et là et encore. Là, il y a des moments où ça s'est calmé. Mais tout est mis à plat. Tous les problèmes, c'est ça. Vraiment. C'est ça. Des fois, moi, je me dis, ça doit être ça, la table rase.
Ça, c'est pas la table rase, au contraire, on met tout sur la table.
On met tout sur la table.
mais on
remet en cause tout.
Bien sûr.
Absolument tout.
C'est des grands moments politiques, populaires.
Et aussi de communication.
Oui.
Les gens ne se parlaient pas autant, ça c'est génial.
Là ça parle là,
le forum quoi.
De plus en plus fort.
C'est génial. C'est vraiment génial. Ça fait quand même une sacrée cohésion comme ça. Et les gens se parlent avec plus d'affection qu'avant. En fait.
Ouais, ouais.
Il y a vraiment quelque chose en commun qu'il n'y avait pas quoi.
Alors on arrive à l'ISIE, Institut supérieur indépendant des élections, un immeuble impressionnant où on va retrouver notre ami Kamel Jandoubi, un vieil ami bien connu des Tunisiens de France et des Français militants, engagés, journalistes en général. Il s'est mobilisé pendant des années sur la question des droits de l'homme en France. Il est revenu dans son pays aussitôt que Ben Ali est parti et aujourd'hui, eh bien, il est à la tête de cet institut.
Ah ouais, la terrasse sur le bureau du président.
C'est ça, la ville de Tunis.
Voilà, alors. Mais Kamel, t'as jamais eu un aussi beau bureau de ta vie.
Ah, mais c'est pas moi qui. C'est un goût qui me va pas. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi autre chose que ça, hein, franchement.
Oh là là, quelle vue magnifique, alors, tiens.
Ça, c'est. Tunis Nord, Sidi Bouzid, là, vous avez le port de Tunis, là. Hein, ça, c'est le golfe de Tunis. Et vous avez tout Tunis Nord, le Tunis bourgeois, hein, le Tunis bobo. Puis derrière, il y a vraiment le quartier populaire de Tunis, là, derrière, de ce côté-ci, là. Le sud. Alors, en face, là, il y a le siège de l'ex-RCD parti, là.
Ce building, là, le grand building.
J'ai proposé, j'ai voulu le prendre comme siège. Oui. Pour l'ISI, pour la symbolique.
Et qu'est-ce que ça devient maintenant, ce truc ?
C'est vide, gardé par l'armée. Il y a des archives.
Une dent creuse.
Une dent creuse, exactement. Et là, vous avez la Médina. C'est ça, la Médina de Tunis, là, de ce côté-ci. La mosquée Zaytouna, donc évidemment. La Casbah, la fameuse Casbah, qui est de ce côté-ci.
Et pendant combien de temps tu as été absent, toi, ici ?
17 ans.
17 ans, tu étais en exil, en France, sans revenir une seule fois en 17 ans ?
Ah, je ne pouvais pas. Franchement, j'hésitais, je voulais vraiment entrer, mais malheureusement, les circonstances n'ont pas permis.
Ouais, problème de santé.
Oui, surtout.
T'es rentré quand, alors ?
Ben, je suis rentré 3 jours après le départ des dictateurs et des despotes et des voyous.
Ouais, ouais. Pendant 17 ans en France, t'es occupé, t'as milité.
Oui, j'ai milité dans...
Le droit des exilés, les...
Oui, mais d'abord dans le champ de l'immigration, j'étais avec mes amis, hein, car quelque part, je suis un immigré. Quoi. J'ai travaillé comme beaucoup de gens. Moi, je suis d'une famille très modeste, j'avais pas de bourse, j'avais pas de moyens, il fallait gagner
ton
ma croûte.
Ton père était docker, c'est ça,
j'ai oui, docker, c'est ça le lieu
sur le
travail.
Port. Oui.
Donc à chaque fois, quand je vois de ce côté-ci, je me rappelle de lui.
Ouais,
mon père est docker, oui. Voilà, et donc progressivement, l'immigration m'a amené vers les droits de l'homme. Et donc, dans le domaine des droits de l'homme, on a créé la fameuse association que tu connais, le Comité pour le respect des droits de l'homme, les libertés des droits de l'homme en Tunisie. Ensuite, on a créé le réseau Remède des droits de l'homme. Et puis, bon, on a travaillé avec les uns et les autres pour dénoncer les violations des droits de l'homme partout dans le monde arabe et même en Europe. Mais bon, nous, on travaillait un peu plus, c'est vrai, sur la Tunisie, mais bon.
Donc, tu es arrivé ici, quoi, le 17 janvier ?
Oui, 17.
17 janvier. Alors, l'accueil ?
Ah ben, c'était inattendu, enfin, c'était très émouvant, mais j'ai pas pleuré. Hein.
C'est pas... Ah bon,
t'as tenu le coup. J'ai tenu le coup. Mais il y avait tous les visages que tu connais. Il y avait Rad El Asraoui, il y avait Mokhtar Tif, il y avait Khmes Chemer, il y avait Khadija Chif, il y avait Dizanoni, il y avait tous les amis, tous les dissidents étaient là.
Mais toi, t'es arrivé sans papier en plus ici. Enfin, avec les papiers français.
Pas de passeport, oui. J'ai arrivé avec un passeport français, donc j'ai marqué, j'ai rempli la fiche comme tout le monde, et j'ai mis tunisien, donc ça posait un problème. J'avais pas de papier de tunisien, quoi. Donc, visiblement, ça les embêtait, quoi. Ils savaient pas quoi faire, donc est-ce qu'ils m'autorisaient ou pas. Et donc, du coup, ils ont commencé à crier, Kamel, tunisien, Kamel. Ils ont forcé l'entrée, ils m'ont arraché carrément de l'intérieur.
Passage en force des douanes.
Ouais, du passage en force, et voilà. Donc, ça c'est comme ça. Et c'était formidable. C'était des moments, j'arrive pas, je ne trouve pas encore les mots pour les mettre un peu, parce qu'on peut pas mettre des mots sur ces moments-là, c'est pas possible. On le vit, puis voilà, donc on le garde aussi quelque part pour soi. C'était très émouvant, c'était formidable.
Parce que moi j'ai connu un gars à la mairie du 2e arrondissement. Il y avait un soutien à Taoufik Ben Brik qui faisait une grève de la faim. Il y avait un certain nombre de militants tunisiens. Et il y avait un gars qui était là, qui te ressemblait pas mal, mais alors pas du tout la même gueule, qui était triste, qui était avachi, qui était abattu.
Qui était fatigué aussi.
Oui, et qui était Kamel.
Oui,
et qui était Kamel. Et on disait, oui, Kamel, il était crevé, qu'il était avec son histoire de cancer, il faut bien dire les choses.
Ouais.
Et là, et après, je trouve un mec, mais absolument magnifique.
T'es magnifique, t'es super,
bah ouais,
t'es
bronzé, c'est un remède contre les cancers. C'est que de...
Il fallait
qu'il fasse ça. Les dictatures, vous allez voir. C'est un remède contre les cancers.
C'est génial. C'est génial.
Et Kamel, je regarde ces chiffres-là. 11 686 candidats. 1621 listes déposées. C'est impressionnant. 26 730 isoloirs, 9 600 urnes, 82 145 cachets en plastique. Non mais c'est incroyable le boulot que vous avez fait. 7 213 bureaux de vote en Tunisie, 479 à l'étranger, et tout ça géré par 50 000 agents. C'est quand même invraisemblable. Enfin, c'est énorme. Ce que tu dis, c'est qu'il y a une sorte d'effervescence, d'exubérance politique dans ce pays, des partis politiques qui dormaient plus ou moins, ou qui étaient plus ou moins interdits, plutôt plus que moins, etc., se voient tout d'un coup avec des flots de demandes d'adhésion.
Il y a de tout. C'est-à-dire des partis qui se sont gonflés d'une manière phénoménale, très importante. Certains partis, anciens partis, avaient peut-être une centaine d'adhérents et se trouvent aujourd'hui à des 30 000, 40 000 adhérents en très peu de temps. C'est-à-dire que tout cela s'est fait, rappelons-le, 14 janvier.
Ça fait 9 mois.
Donc c'est pas quelque chose. Et puis nous avons aussi des partis dont l'Assemblée Générale peut se tenir dans une cabine téléphonique. Donc c'est des partis presque familiaux, quoi. Donc, bon.
Ouais, le grand défi que vous aviez, qu'avait la Tunisie, les Tunisiens, c'est de continuer en changeant. C'est-à-dire que vous étiez obligé de conserver l'État, les structures de l'État, même si les fonctionnaires, l'administration étaient faites de collabos de Ben Ali, il fallait absolument garder l'État. Et donc, garder les fonctionnaires et garder tous ceux qui le faisaient fonctionner.
On peut dire des choses comme ça, c'est vrai, dans une certaine mesure, mais c'est une réalité un peu plus complexe. Beaucoup de fonctionnaires, vraiment, sinon la majorité de fonctionnaires, sont des fonctionnaires qui je veux dire, presque normaux. C'est dans la mesure où ils remplissent une mission, ils ont des compétences, ils font tourner la machine. Et ils étaient obéissants, évidemment. Ils étaient même plus qu'obéissants. Ils étaient, d'une certaine manière, complices par leur passivité. Mais que demande-t-on d'un fonctionnaire, quand, surtout dans des régimes autoritaires de ce type-là? C'était pas une... Mais ce qui est clair, c'est que, d'abord, l'État tunisien existe bel et bien. On doit la réformer, certainement, mais on ne peut pas, me semble-t-il, ce n'est pas ce qui a été demandé par les Tunisiens, et notamment par les gens qui ont réalisé la révolution. Ils n'ont pas demandé la destruction de l'État, ils ont demandé le départ de Ben Ali et de sa clique. Donc, et c'était ça qui est... Donc, bien évidemment, l'État actuel ne peut pas rester. Il faut engager des réformes vraiment en profondeur dans plusieurs départements, si ce n'est dans tous les départements, et notamment les secteurs les plus prioritaires, le secteur sécuritaire, le secteur de la justice. Évidemment, dans le développement, évidemment, il y a des inégalités criantes qui ont pesé tout leur poids dans ce qui est arrivé en Tunisie, c'est-à-dire la révolution, des inégalités régionales vraiment scandaleuses. Hein. Et c'était par des choix politiques que ça a été fait. Le non-développement de certaines régions n'était pas...
C'est-à-dire que les grandes villes et la côte sont développées et l'intérieur du pays est complètement sous-développé. Oublié. Il y a des inégalités oubliées.
Oubliées, marginalisées. Une volonté politique d'accès au développement du pays sur une partie du pays aux dépens d'une autre partie.
Voilà, l'attente politique, exubérance politique, attente politique. Il va falloir répondre à ça. Il ne faudrait pas décevoir ce monde-là. Il y a une impatience aussi.
Ah oui, c'est tout à fait, il y a une impatience. Mais je crois qu'il faut la modérer aussi, parce qu'il y a quelques mois, il y a un doute énorme par rapport au processus électoral lui-même. Tout le monde doutait. Parce qu'on doutait de tout. Ce n'est pas possible d'organiser des élections démocratiques. Et après tout, à quoi ça va servir, ces élections-là? Est-ce que ça va nous résoudre le problème de l'emploi, du logement, de la misère, de... Non. Donc les gens posaient, ils continuaient à poser ces questions-là, mais ils doutaient énormément. Et beaucoup de partis ont joué sur ça pour faire douter la population de cela. On joue sur le doute. Mais progressivement, ce que nous avons vécu en compact, vraiment en sous forme compactée, ces quelques derniers mois, je pense que les gens ont repris, beaucoup de gens ont repris confiance dans le processus démocratique. C'est-à-dire dans l'idée que les élections ne vont pas nous résoudre tous les problèmes. Loin de là. Mais ça va nous permettre de commencer à résoudre un problème fondamental, qui est celui de la légitimité de notre institution. Qui décide? Quelle est la source de la souveraineté aujourd'hui? Est-ce que c'est le peuple? Ou est-ce que c'est l'élite, ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est à cette question-là, qui est une question fondamentale, qui est en train d'être résolue sous nos yeux, par les élections. Et je pense que la majeure partie des Tunisiens, il y a encore des gens qui pensent le contraire, la majeure partie des Tunisiens pensent que les élections peuvent nous permettre de résoudre cette question. À partir de la question de légitimité, d'avoir une institution légitime, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre les décisions qui engagent le pays et qui vont commencer à traiter ces attentes-là, eh ben, s'ouvrent des chantiers énormes. Mais si on fait ça, c'est déjà, on a commencé à ouvrir une nouvelle page de la Tunisie. On n'est qu'au tout début de la page. La page, je dirais presque qu'elle est blanche. Si aujourd'hui les gens ont envie de voter, et c'est vrai, la majeure partie ne sont pas, c'est parce qu'ils ont compris, tout simplement, ils ont adhéré progressivement à l'idée des élections.
On vient de voir Kamel Chantoubi qui préside les opérations pour ces élections qui ont lieu dimanche. Et on est tout ému et tout heureux de le trouver à ce poste-là. Et maintenant, on retrouve un vieux copain aussi, c'est Omeya Sédic,
qui, lui, a un point de vue un peu différent sur ces élections. Omeya aussi est un militant, politologue, engagé depuis très longtemps. Et toi, Omeya, tu as un regard beaucoup moins enjoué sur ces élections.
Moi, je crois être plutôt joyeux, hein, joyeux mais lucide, on va dire. D'abord, je suis d'accord avec Kamel sur la nécessité de faire réussir ces élections, parce que je pense que si ça foire, ça peut être catastrophique. Mais la réussite des élections, je crois, ne changera pas grand-chose à la situation. Je crois que ce sont des élections où il n'y a pas vraiment de grands enjeux positifs. Il y a un enjeu négatif dans le sens où il ne faut pas que ce soit un échec, mais la réussite ne changera pas grand-chose à la condition que vivent les gens. Les grandes questions importantes qu'attendent les gens sont déjà tranchées. Le consensus dans les grandes formations politiques concurrentes est clair sur la politique économique et sociale, sur le fait de maintenir le statu quo, c'est-à-dire des politiques libérales où rien n'est changé à peu près, une fiscalité libérale également, c'est-à-dire très injuste, pas de vraie politique de redistribution, des choix économiques qui sont dictés par le marché mondial le plus libéré et le plus débridé. Il y a consensus également sur la question de l'identité et de la religion, etc. Les principales formations politiques, aussi bien celles dites laïques que Ennahda, qui est le principal parti à référence islamiste en Tunisie, sont d'accord sur le fait de ne pas toucher à l'article 1 de la Constitution.
C'est-à-dire
maintenir un petit peu la situation actuelle, sans aller dans le sens d'une sécularisation plus totale, mais sans aller non plus vers
une islamisation trop marquée
des institutions. Sur tous ces dossiers, il y a un consensus, on ne va pas y toucher. On ne changera rien au statu quo hanté, c'est-à-dire à la politique qui a été suivie pendant toute la période de Ben Ali, etc. Bien sûr, avec moins de corruption, moins d'illégalité, moins de prédation, etc.
Or, selon toi, les Tunisiens attendent autre chose.
Les Tunisiens pensent que cette révolution, ces sacrifices, méritent que quelque chose change dans leur vie quotidienne, qu'ils vivent d'une manière qu'ils perçoivent moins injuste, en tout cas, et ils seront déçus. Il y a quelque chose de très important qui sera changé. Hein. Cette révolution est quelque chose d'extraordinaire, de très positif. Je souhaite aussi que les institutions se reconstruisent parce que c'est important que les gens ne soient plus tabassés par les flics quotidiennement, etc. Mais nous voyons quand même qu'une grande partie de l'administration de Ben Ali est encore en place, que beaucoup des pratiques de l'ancien régime ont toujours cours. Mais bon. Moi, je pense que les choses vont changer. Elles ne changeront pas par la vertu de ces élections, je crois. Donc je souhaite que ces élections réussissent. Mais ces élections ne sont pas le moment qui changeront pour le mieux les bases même de la vie en Tunisie. Je pense que c'est quelque chose de plus profond sur lequel il faut travailler, qui prendra un petit peu plus de temps. Je suis très optimiste, dans le sens où je pense que dans les années à venir, ce peuple qui a un très grand niveau de conscience politique et qui maintenant n'a plus peur de rien, et les gens sont prêts à sortir se battre à chaque fois qu'ils pensent que ce qu'ils vivent est injuste ou inacceptable. Et je suis sûr que ça va changer pas seulement la face de la Tunisie, mais la face du monde.
C'était un reportage de Daniel Mermet et Guy Vanctil à Tunis. Merci à Selmaz Guidi pour la traduction et Antoine Chao pour le montage. Merci à Radia Nasraoui, Kamel Jandoubi, Omeya Sédic et Nicolas Beau. À lire Tunis et Paris, les liaisons dangereuses de Nicolas Beau et Arnaud Muller aux éditions Gavsevitch. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site la-bas.org. À la technique, Grégory Wallon et Sophie Moreno, réalisation Bertrand Chometon et Franck Adhérer, assistante Marina Touillez, et c'est Grégory Salomonovitch qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
MMA, c'est aussi le premier réseau social d'assurance pour les professionnels ?
Ah, pour moi, c'est sûr. Tenez, ma chambre froide est tombée en panne et toutes mes marchandises étaient perdues. Vous imaginez la catastrophe ? Il fallait trouver une solution.
Et alors ?
Zéro tracas. MMA l'a fait. Ils ont pris en charge les réparations de ma chambre froide et les marchandises qui y étaient stockées m'ont été remboursées.
MMA l'a fait !
Bien sûr, c'est qui les clients pros ?
C'est nous !
Offre soumise à condition.
Ah, vous avez rencontré Léa dans un parc. Vous avez embrassé Léa au cinéma. Vous allez emménager avec Léa. Mais il y a encore une chose que vous pourrez faire avec Léa. Des économies d'énergie.
Lors de votre emménagement, profitez de conseils gratuits pour bénéficier d'un contrat d'électricité le mieux adapté à vos usages. Par exemple, en choisissant l'option heure pleine heure creuse. Appelez votre conseiller EDF Bleu Ciel au 09 69 32 15 15. Appel non surtaxé. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Pour que résonne toujours l'intelligence, l'irrévérence et l'humour de Jean-Louis Borry.
Ouais, mais justement, Bergman a tellement de génie qu'il m'a fait voir Dieu.
Mais oui.
J'ai failli dire, il exige de le rencontrer chez Bergman.
Mais absolument.
Mais c'est vrai.
Lisez et écoutez C'était Borry, un livre de CD, Daniel Garcia, Jeannine Marc Pesé.
Irrésistible.
Une coédition France Inter, Ina Scam.
France Inter, partenaire de l'exposition Gaulois, une expo renversante à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous pensiez que les Gaulois s'amusaient à attacher des ailes sur leur casque ou qu'ils vivaient dans la forêt avec les sangliers ? Oubliez tout ça. L'exposition Gaulois, une expo renversante, fait voler en éclats les idées reçues et présente la vie quotidienne, les arts et les croyances du monde gaulois. Retrouvez Gaulois, une expo renversante, jusqu'au 2 septembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du Festival du Vent à Calvi, du 26 au 30 octobre. Pour sa 20e édition, le festival vous emmène dans un tourbillon de concerts, spectacles de rue, activités aériennes, forums. Le tout dans un univers écologique et citoyen. Retrouvez le Festival du Vent dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après le journal, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lodéon. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Et le flash vous est présenté par Laetitia Gaillet.
Il n'y a pas encore de confirmation de l'OTAN ni des États-Unis. Seul le Conseil national de transition libyen l'affirme. Muammar Kadhafi serait donc mort. L'ancien dictateur libyen aurait été tué alors qu'il tentait de fuir la ville de Sirte. Et si l'on en croit toujours le CNT, l'un des fils Kadhafi, Mouattassim, aurait lui aussi été retrouvé mort, mais dans la ville de Sirte. En tout cas, l'annonce de la mort du guide libyen a été accueillie partout dans le pays par des cris de joie. Illustration à Tripoli. Écoutez le témoignage de Luciano Calestrini. C'est le chef de la mission de l'UNICEF en Libye.
Il y a beaucoup de shooting en anglais.
Oui, de tirs en l'air.
Voilà, cette nouvelle que peut-être Gaddafi est mort. Pour l'UNICEF, ça c'est une grande préoccupation parce qu'on sait qu'avant, il y a pas mal des enfants qui étaient tués par cette façon de célébration. Tripoli, c'est une ville euphorique aujourd'hui. Moi, je suis pour le moment bloqué dans le compound onusien parce que vraiment, c'est trop de circulation et trop de gens qui sont dans la ville et c'est pas bien sécurisé. Mon visuel est un peu bloqué par ces bâtiments, mais moi, j'imagine il y a pas mal de forces sécuritaires qui continuent de circuler, mais aussi, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de populations avec des armes et qui utilisent ces armes pour cette célébration comme tu écoutes à ce moment. Voilà, je vois ça directement à ce moment devant moi.
Vous étiez à Sirte il n'y a pas longtemps. Cette issue, cette capture, cette mort ou des blessures infligées à Kadhafi, c'était quelque chose d'attendu à Sirte ces derniers jours ?
Le conflit à Sirte, tout le monde veut que ça arrête. Tout de suite, et aujourd'hui, si c'est sûr que le conflit à Sirte est finalisé, c'est bien pour tout le monde et surtout les enfants, bien sûr.
Des propos recueillis par Hervé Toutain. On l'a dit, et donc la mort de Muammar Kadhafi n'a pas été confirmée au niveau international, mais déjà les réactions arrivent du monde entier. L'Union européenne salue aujourd'hui la fin d'une ère de despotisme et de répression. Muammar Kadhafi a dirigé d'une main de fer pendant 42 ans la Libye. Il avait fui Tripoli le 23 août dernier. Après la Tunisie, l'Égypte, la Libye est donc le troisième pays à s'être libéré de son dictateur. Dans le reste de l'actualité, le sommet européen de dimanche pourrait être reporté. C'est ce qu'affirme le quotidien allemand Die Welt aujourd'hui. À Bruxelles, on déclare ne pas être au courant. Il n'empêche, les Européens sont toujours divisés quant à la manière de résoudre la crise de la dette et empêcher la contagion du cas grec aux autres pays de la zone euro. Sur le terrain, en Grèce justement, les députés doivent adopter ce soir définitivement un nouveau plan d'austérité. Un plan qui suscite le rejet de la population. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont toujours rassemblées dans les rues d'Athènes. Des affrontements ont lieu d'ailleurs actuellement entre manifestants communistes, casseurs et policiers. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les dimanches à partir de midi, en direct et en public du studio 109, 3D, le journal de Stéphane Paoli.
Dans 3D dimanche, la société des centenaires, car elle est en vue. Dès lors, comment gérerons-nous ce temps de vie supplémentaire? Qu'en sera-t-il des mises sous tutelle? Du choix de la fin de vie? L'homme augmenté que prépare la science nous délivrera-t-il de la vieillesse?
Pour assister à l'émission, rendez-vous dimanche à 11h30 dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La différence.
Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lodéon. Bonsoir.
Et bonjour et bonsoir, bonjour, bonsoir. Laetitia.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Dans deux jours, on va célébrer l'anniversaire de Franz Liszt, né il y a presque 200 ans, en 1811, donc ce sera le 22 octobre. Et je reçois, pour cet anniversaire un peu prématuré, mais enfin pas de beaucoup, mais comme on n'est pas à l'antenne maintenant le vendredi pour l'instant, en tout cas, mais ça fait rien, on va se retrouver samedi sur France Musique. Donc je reçois aujourd'hui Jean-Yves Clément, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, essayiste, organisateur de concerts, de spectacles pyrotechniques, présentateur de radio, directeur du festival de Nohant, au départ c'était les fêtes romantiques de Nohant, puis les rencontres internationales, Frédéric Chopin, enfin voilà, tout ce qui est dans le Berry là-bas, du côté de la Châtre, de Châteauroux,
oui.
Et de Nohant même, l'endroit fameux de Georges Sand, où elle a rassemblé tant de monde. Vous êtes aussi l'envié directeur littéraire des Journées Nationales du Livre et du Vin, qui se déroule à Saumur depuis 96. Alors là, j'ai plein de copains écrivains qui y vont, oui. Avec un grand sourire, mais alors, ils savent qu'ils vont pouvoir lever un peu le coude.
Entre autres.
Voilà, mais toujours à modération, pardon, c'est ça. Donc, c'est une manifestation très sympathique, mais ce qui nous occupe maintenant, et on va en parler aussi en citant par exemple votre essai biographique sur Liszt, qui est paru en janvier, chez Actes Sud, donc ce livre qui est vraiment une belle somme, je dirais, dans un ordre chronologique, avec un début, vous expliquez aussi votre propre sentiment concernant Franz Liszt, donc édition Actes Sud Classica, je crois qu'on voilà, on vous a situé à peu près, vous êtes un passionné. Vous êtes un fondu, vous êtes, oui, un fanat de Franz Liszt. Et ça date de quand, Jean-Yves Clément?
Ça date un peu de Nohant, c'est encore la faute à Georges Sand et de cette lettre que j'ai retrouvée où Georges Sand et Liszt s'accordent dans l'idée de créer un festival à Châteauroux, à la plus grande gloire de Liszt. Et donc je l'ai fait quelques années plus tard et j'ai relevé le gant de Liszt. En l'occurrence, ça fait 10 ans, les Listomanias sont nés. Et après, je suis devenu 10 ans après commissaire de l'année Liszt, vous voyez, et je produis Christus aux Invalides samedi, le jour du crime de la naissance de Liszt, en prélude à ces Listomanias qui viennent
jour du crime qui dit avec affection, oui. Non, alors c'est Frédéric Mitterrand, qui était sur cette antenne encore ce matin d'ailleurs, qui vous a nommé commissaire général.
Oui.
Et vous travaillez aussi avec l'Institut français.
Oui, absolument. Donc le ministère des Affaires extérieures, ça concerne, oui, la Hongrie, et avec l'Institut hongrois de Paris d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Et donc vous avez tout pouvoir pour nous faire aimer Liszt.
Absolument,
cette
vous êtes en garde à vue romantique.
Ah, j'en suis
Frédéric,
très heureux.
Dès maintenant.
Avec vous, depuis le temps que je vous connais, Jean-Yves.
Merci.
On va commencer par la Danza, une tarentelle napolitaine tirée des soirées musicales de Rossini, mais revue évidemment avec générosité parce qu'il aimait beaucoup transcrire les œuvres des autres, faire connaître à travers son piano.
C'est la moitié de ses opus pianistiques, hein, les,
voilà,
transcriptions et les paraphrases.
Exactement, donc là, quelques petites notes au début, quelques accords, et puis cette fameuse tarentelle signée les deux, Rossini et Liszt.